Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
h 32, on est de retour après la super entrevue avec Danny Roy, directeur général de CRIQ-UPEX. Super entrevue, moi j'ai trouvé ça super pertinent. Je vais clairement faire une visite à leur
petite friperie.
À leur petite friperie.
On va rappeler l'adresse de la friperie.
Oui, c'est ça, exact. Je viens de...
Bah, sachez également que vis-à-vis de la friperie, en attendant que je vous donne précisément
donc,
l'adresse.
Donc Taffy et compagnie, ouais. Au 104 rue Wellington Nord, Sherbrooke.
C'est ça.
Une OBNL et une entreprise d'insertion socio-professionnelle.
C'est ça, on a une promo du coup également de 10% pour les étudiants. Et sur vos agendas, dans la dernière partie, c'est-à-dire après le mois de juillet 2025, vous avez le coupon de 50% pour les étudiants, ainsi qu'un second de combien?
C'est ça, fait que vous avez 10% en tout temps.
Et
50% coupon rabais exclusif, 50% de rabais sur un article de la friperie à prix courant.
Ouais, c'est ça, effectivement. Okay. En parallèle de ça, du coup, je compte attaquer aussi ma chronique sur ce qui s'est passé ce dimanche avec Israël et le Hamas qui vont peut-être avoir une paix plutôt fragile avec un espoir possible de fin des événements de guerre. On rappelle un peu le contexte et les enjeux. Depuis plus de 15 mois, même plusieurs années, la guerre entre l'Israël et l'Hamas a dévasté la bande de Gaza. Elle a causé beaucoup de pertes humaines ainsi que de matériel qui est exclusivement colossal. On parle de 46 000 morts du côté palestinien et Israël, on parle de 1 200 victimes. Dont de nombreux civils du côté palestinien. On soulignera que durant ce conflit, ça a été marqué par plusieurs cycles de violence assez incessants où la population exsangue dans les deux camps a souffert beaucoup de grandes pertes. On a eu un accord de cessez-le-feu qui a été signé par la médiation du Qatar et l'Égypte et les États-Unis qui a apporté un fragile espoir de paix sous plusieurs conditions, notamment la libération de plusieurs otages des deux côtés. Actuellement, on a prévu un total de 3 otages israéliens pour plus de 1000 prisonniers palestiniens ainsi qu'un arrêt temporaire des hostilités. La première libération a déjà eu lieu. On a du coup 3 otages israéliens qui ont été remis en liberté ce dimanche, qui a été suivi aussi de la sortie de 90 prisonniers palestiniens. Cet accord est pour moi actuellement dans un état assez potentiel de désescalade. Cependant, il reste assez fragile et conditionné à la bonne volonté des deux parties. Aujourd'hui, on va un peu voir et faire un éclaircissement de ces points-là. Moi, je dirais premièrement que pour moi, cet accord, est-ce que ça marque réellement un avancement sur la paix? Si je devrais rester optimiste, je resterais un peu comme certains experts comme Nimrod Goren qui estiment que cet accord va peut-être vraiment offrir une lueur d'espoir sur la libération des otages et une priorité pour Israël, tandis que pour les prisonniers palestiniens libérés, ça pourrait potentiellement apaiser les tensions de Gaza, même si j'en doute, car il y a un lourd bagage émotionnel qui est quand même rattaché. On parle quand même de pères de famille, de mères de famille qui ont vu leur enfant mourir. On parle de bombardements dans des zones vues comme étant non déclarées de guerre, des hôpitaux et autres. Et même au-delà de ça, si je resterais un peu sur ce point de vue pessimiste, je dirais que même il y a une fragilité dans cet accord. Parce que, qu'on le veut ou non, comment je pourrais dire ça ? On a plusieurs mises en œuvre qui ont été projetées sur plusieurs phases. On a une première phase qui a commencé à se lancer. Est-ce que les autres vont-elles suivre ? Je ne sais pas, à ton avis, est-ce que pour toi, les deux autres phases vont suivre un peu ce cataclysme ?
Les phases de libération ?
C'est ça.
Possiblement, je crois qu'il y a une réelle chance qu'il y ait comme... Mais tu sais, on a tout assisté à des cessez-le-feu dans divers conflits. C'est tout le temps temporaire. Qu'on a une réelle chance que le conflit s'arrête suite à ce désescalade? J'en doute. Je crois, j'ai de la difficulté à croire que Benjamin Netanyahu va s'arrêter.
Il y a aussi beaucoup de controverses, notamment dans le front d'extrême droite israélien, qui est en total désaccord avec cette prise de position. On a même les familles qui réclament du côté israélien un accord global avec une libération des otages immédiate.
Ouais.
Mais on a toujours du coup en fait cette impression qu'il y a toujours un peu d'étincelle dans le baril à poudre.
Mais oui, c'est ça. Le gouvernement Benjamin Netanyahu, justement, avec l'extrême droite qui en fait partie, ils ont une démocratie ultra pure en Israël.
Ouais.
Donc c'est une coalition de plein de partis, une coalition, c'est ça, vraiment diffuse avec des groupes justement d'extrême droite qu'eux, ils sont absolument pas en accord avec justement l'idée que même la bande de Gaza continue à exister. Donc ça va être très difficile de négocier ça. Tu sais, si c'est dans l'idée de Benjamin Netanyahu justement de réellement arriver à un accord de paix, ça va être très difficile pour son gouvernement d'arriver à ça. Là.
Bah, on parle aussi du peuple israélien, mais il y a aussi le peuple à Gaza qui, ouais. qui sont aussi... La population, elle est littéralement épuisée, elle en a marre de ce conflit. Et malgré tout ce qui pourrait être exigé, elle exige avant tout une fin durable des hostilités. Je dirais même au-delà de ça qu'Israël refuse encore de reconnaître le groupe du Hamas comme une autorité légitime, malgré les relations qu'ils ont eues dans les époques antérieures ouais. sur l'approvisionnement qu'a eu le gouvernement israélien sur ça. On a eu du coup les autorités palestiniennes qui souhaitaient reprendre le contrôle de Gaza, et on a une translation politique qui semble inévitable mais qui s'annonce assez complexe, car dans ces eaux-là, vu que le gouvernement palestinien réclame la réappropriation, et même, c'est une question qu'on peut se poser, comment va être redéfini le territoire suite à ce conflit ? Ça n'a pas été abordé dans ces phases, et moi je pense que c'est un des points qui est nécessaire même de clarifier, parce que sinon, je vois pas comment le conflit va s'arrêter.
Mais c'est clair, puis...
C'est ça en fait,
Je suis même pas certain que le gouvernement israélien est arrivé au sein même de leur propre gouvernement à une entente. Qu'est-ce qui va arriver de la bande de Gaza ?
Mais comment va être défini le territoire?
C'est ça, exact. Je crois que c'est même pas, ils sont même pas arrivés à des solutions. Parce que, comme on disait, justement, il y a une partie dans ce gouvernement-là qui veut même pas reconnaître que ça va... que les bandes de Gaza ne vont pas être annexées au grand complet. Là.
Bah après, au-delà de ça, actuellement, même, je pense qu'à l'échelle internationale, la pression, elle est pas sur ce point-là. Actuellement, c'est une pression uniquement sur le conflit. Donc, est-ce que... On va se dire que l'ONU et les instances internationales vont redéfinir en faveur d'Israël le territoire ? Parce que en soi, l'exigence... quand je vois ça, c'est que je vois la seule exigence en soi qu'on a à l'international, c'est l'arrêt des conflits. C'est-à-dire que on va être capable maintenant de définir que, vu qu'ils arrêtent les conflits, on va leur céder une part de territoire. Du coup, pourquoi pas faire ça avec la Russie
C'est des conversations hyper complexes, puis justement,
mais ouais,
là,
c'est ça le truc.
Puis si je me souviens bien, l'ONU n'a pas été accepté d'intervenir justement dans la bande de Gaza. Je crois pas qu'ils ont eu l'autorisation.
Après, l'instance de l'ONU, moi je trouve qu'actuellement elle a plus de pouvoir, c'est juste une figure symbolique.
Un peu plus qu'une figure symbolique, mais oui, c'est très difficile d'agir justement maintenant dans des conflits comme ça, du moins d'avoir un impact réel et concret, justement.
Mm-hmm.
C'est plus difficile. Mais il y a clairement l'influence que l'ONU et la perception des autres pays face aux pays. Je crois que l'ONU est bonne là-dedans, dans le sens que il y a une certaine façon, une accountability, tu sais, qu'ils doivent respecter. Fait que c'est sûr qu'Israël
ça exige après aussi un accord avec les puissances qui accordent la décision finale. Je parlerai de la Russie, de la France, des États-Unis et des autres. Mais au-delà de ça, même moi, je me dis juste qu'actuellement, dans le conflit, je vois un peuple... c'est pas mon point de vue que je cite, je reste factuel sur des faits. C'est que je vois un peuple qui s'est fait, du coup, attaquer. Et dont, potentiellement, on... Tu sais, genre, c'est un peu genre ce qui se passe avec la Russie. Tu sais, genre, on attaque... OK, on va s'arrêter, mais du coup, vous nous cédez telle partie de territoire.
Oh oui,
est-ce que c'est ça, la politique ? C'est ça la politique maintenant de 2025.
C'est une politique d'annexion.
Un peu, c'est ça, mais au-delà de ça, même dans le rôle de médiation internationale, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui se faisaient, comme on le disait, que ce soit le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, qui jouent un rôle crucial dans cet accord. Ils cherchent à maintenir une pression constante pour garantir les conditions des phases suivantes valables, mais est-ce qu'ils vont réussir ce pari-là ? Est-ce que, du coup, les phases vont être maintenues ? Ça s'annonce bien, mais...
Les phases, j'ai plus... Tu sais, je douterais pas trop là, que ça pourrait vraiment se faire, mais arriver à une paix durable, j'ai des doutes. Je me demande si ça va pas simplement se terminer par, justement, un gouvernement de transition dans la bande de Gaza qui est comme un gouvernement des marionnettes israéliennes.
Bah, après l'arrivée de Donald Trump, je redéfinis aussi un peu ce pas-là. Parce que on a Biden qui signale ses efforts sur lui, Mais est-ce qu'on peut dire que Trump va peut-être cancel tous ses efforts ou peut-être va s'appuyer à maintenir aussi cet arrêt?
C'est clair que c'était une de ses promesses de limiter l'aide internationale et justement son implication dans des conflits. Ça reste que l'Israël est un bon partenaire commercial et politique des États-Unis. Je ne sais pas à quel point ça va bouger l'aiguille dans ce conflit-là en soi, à moins qu'ils vont y laisser plus comme carte blanche.
Je conclurai du coup avec cette question ouverte à vous, chers auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cet accord? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce que, au contraire, cette légitimité n'a pas à se prouver? Ou alors, peut-elle réellement conduire à une paix ou n'est-ce juste qu'une pause pour un temps donné?
Ouais, c'est simplement la seule chose que la bande de Gaza peut faire maintenant.
Bah, c'est ça en fait. Moi, ma question, c'est vraiment, est-ce que c'est une paix ou c'est une légère pause avant la reprise des conflits incessants? Telle est la question de cette fin de chronique.
Donc, Jean, on vous laisse sur une pause publicitaire et une petite chanson qui est « Qu'est-ce que tu me fais de Les Louanges ?»